Courte méditation sur la gloire morale du Seigneur Jésus-Christ par J.G. Bellet. Enregistrement numéro 1. Et quand quelqu'un présentera une offrande de gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, et il versera de l'huile sur elle, et mettra de l'encens dessus, et il l'apportera aux fils d'Aaron, les sacrificateurs. Et le sacrificateur prendra une pleine poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens, et il en fera fumer le mémorial sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Lévitique, chapitre 2, versets 1 et 2. C'est la gloire morale, c'est-à-dire le caractère du Seigneur Jésus, qui fait le sujet de cette méditation. Tout en lui montait vers Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Chacune des expressions de ce qu'il était en lui-même, quelle qu'elle fût, même la moindre, et à quelque circonstance qu'elle se rattachât, tout était un parfum d'encens. En lui, mais en lui seulement, l'homme fut réconcilié avec Dieu. En lui, Dieu retrouva son bon plaisir en l'homme, et cela avec un inexprimable gain. Car en Jésus, l'homme est plus cher à Dieu qu'il ne l'aurait été dans une éternité d'innocence adamique. Mais dans cette méditation sur la gloire morale du Seigneur Jésus, je ne suis très certainement parvenu à saisir qu'une bien faible partie de cet admirable sujet. Toutefois, je pourrais, je l'espère, éveiller dans d'autres âmes des pensées profitables, et cela sera un bien. C'est de la personne du Seigneur, Dieu et homme en un seul Christ, que je désire m'occuper. Je parlerai aussi de son œuvre, de ce service de douleur ou de cette effusion de sang faite à la croix, par laquelle la réconciliation est accomplie, et où elle est prêchée pour l'acceptation et la joie de la foi. Les gloires du Seigneur Jésus sont de trois natures différentes. Elles sont personnelles, officielles et morales. Sa gloire personnelle, Jésus l'a voilée, sauf là où la foi savait la découvrir et où le besoin du moment l'exigeait. Sa gloire officielle, il la voilait également. Il n'allait pas de lieu en lieu comme le Fils de Dieu qui vient du sein du Père, ni comme le Fils de David dans son autorité royale. Ces gloires-là restaient habituellement cachées quand il passait, jour après jour, par les circonstances diverses de la vie. Mais sa gloire morale ne pouvait être cachée. Jésus ne pouvait pas être autrement que parfait en toute chose. Ce caractère lui appartenait, c'était ce qu'il était. Son excellence même rendait cette gloire trop éclatante pour le regard de l'homme, et l'homme se trouvait continuellement repris par elle. Mais elle resplendissait, que l'homme pût ou non la supporter. Et maintenant, elle illumine chacune des pages des quatre évangiles, comme elle illumina jadis chacun des sentiers dans lesquels le Seigneur marcha ici-bas. On a dit du Seigneur Jésus que son humanité était parfaitement naturelle dans son développement. Cette observation est très belle et très vraie. Le chapitre 2 de Luc le constaterait au besoin. Il n'y avait en Jésus aucun progrès qui ne fût naturel. Sa croissance était régulière en tout point. Sa sagesse marchait de front avec sa stature et son âge. Il fut d'abord enfant, ensuite homme. Comme homme, l'homme de Dieu dans le monde, il rendra témoignage du monde que ses œuvres sont mauvaises, et il sera haï du monde. Mais comme enfant, un enfant, selon le cœur de Dieu, il sera soumis à ses parents et sous la loi, et il le sera comme quelqu'un de parfait. C'est dans de telles conditions que Jésus avançait en faveur auprès de Dieu et des hommes. Mais quoiqu'il y eût en lui un progrès, comme nous le voyons, il n'y avait cependant aucune obscurité, aucun mauvais penchant, aucune erreur. En ceci, il est différent de tous. Il est dit de Marie qu'elle gardait par devers elle les choses qui avaient été dites touchant Jésus et qu'elle les repassait dans son cœur. Toutefois des nuages, du trouble, des ténèbres même assiégèrent son esprit, et le Seigneur eut à lui dire
« Pourquoi me cherchez-vous ?»
Luc 2, verset 49. Tandis que, chez Jésus, le progrès n'était qu'une seule et même forme de beauté morale. Sa croissance était régulière et toujours ce qu'elle devait être. Et je puis ajouter que, comme son humanité était parfaitement naturelle dans son développement, son caractère aussi était entièrement humain dans ses expressions. Tout ce qu'il manifestait était commun à l'homme. Il était
l'arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison.
Psaume 1, verset 3. Et toutes choses ne sont belles qu'en leur saison. La gloire morale de l'enfant Jésus brille en sa saison et en sa génération. Et lorsqu'il est devenu homme, la même gloire ne fait que se montrer sous d'autres aspects. Jésus savait quand il fallait reconnaître les droits de sa mère, lorsqu'elle les mettait en avant, quand il fallait y résister, bien qu'elle les fît valoir, quand il fallait y répondre, alors qu'il n'était pas revendiqué. Luc 2, verset 51.
Et il descendit avec eux et vint à Nazareth et leur était soumis, et sa mère conservait toutes ses paroles dans son cœur.
Luc 8, verset 21.
Mais lui, répondant, leur dit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Jean 19, verset 27.
Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Et à mesure que nous avançons en suivant les traces de Jésus, il en est de même. Il connut Gethsémané en sa saison, ou selon son vrai caractère, comme il connut la Sainte Montagne en sa saison, saison d'hiver ou d'été pour son âme. Il connut le puits de Sichar et le chemin qui le conduisait à Jérusalem pour la dernière fois. Il suivit chaque sentier et se trouva à chacun des lieux où il passa, dans la pensée qui s'accordait avec le caractère qu'ils avaient aux yeux de Dieu. Il en fut de même dans les occasions qui demandaient plus de force morale encore. Quand il s'agit de la profanation de la maison de son père, la parole du prophète se réalise en lui.
« Le zèle de ta maison m'a dévoré. »
Est-il question d'une insulte faite à lui-même par quelque villageois samaritain? Il supporte tout et passe outre. Tout était parfait comme combinaison et comme moment. Jésus pleura quand il arriva devant le tombeau de Lazare, bien qu'il sût qu'il portait en lui-même la vie pour celui qui était mort. Lui qui venait de dire
« Je suis la résurrection et la vie »,
il pleura. La puissance divine laissait les sympathies humaines suivre librement leur cours. C'est l'assemblage ou la combinaison des vertus qui constitue la gloire morale. Jésus savait, selon l'expression de l'apôtre, être dans l'abondance et être abaissé. Il savait user des moments de prospérité, si on peut les appeler ainsi, comme des moments d'abaissement. Car, pendant son passage à travers la vie, il apprit à connaître et les uns et les autres. Ainsi, lors de la transfiguration, il fut pour un moment introduit dans la gloire, et ce fut une heure radieuse. Il apparut là avec les honneurs qui lui appartiennent, comme le soleil, la source de toute lumière, Il resplendissait, et des personnages éminents tels que Moïse et Élie étaient là, enveloppés de sa gloire et brillant avec lui. Mais quand il descendit de la montagne, il commanda à ceux qui avaient été les témoins de sa majesté de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Et arrivé dans la plaine, et comme le peuple accourait pour le saluer, Marc 9, verset 15, sa personne reflétant sans doute encore, quoique faiblement, la gloire dans laquelle il venait de se trouver, il ne s'arrête pas pour recevoir l'hommage de la foule, mais il reprend aussitôt son service habituel, car il savait être dans l'abondance.
Marc 9, verset 15, et aussitôt toute la foule, le voyant, fut saisie d'étonnement, et ils accoururent et le saluèrent.
La prospérité ne l'enorgueillissait pas. Il ne cherchait pas une place parmi les hommes, mais il se renonçait lui-même, s'anéantissait lui-même, et voilait sa gloire pour n'être que le serviteur. Il en fut de même une autre fois après qu'il fut ressuscité, comme nous l'apprend le chapitre 20 de Jean. Nous le voyons là au milieu de ses disciples, revêtu d'une gloire telle que jamais homme n'en avait possédé ou entrevu de semblable. Il est là comme le vainqueur de la mort, le destructeur du sépulcre. Et cependant, bien qu'il possédât ces gloires excellentes, il n'était pas venu pour recueillir les hommages de son peuple, comme ferait naturellement quelqu'un qui se retrouverait au sein de ses amis et de sa famille après la fatigue, le danger et la victoire. Jésus n'était cependant pas indifférent à la sympathie. Il la recherchait en temps convenable et en sentait l'absence quand il ne la rencontrait pas. Mais maintenant, ressuscité d'entre les morts, il est ici au milieu de ses disciples, plutôt comme un visiteur d'un jour que comme un triomphateur, et il les entretient plutôt de leurs propres intérêts qu'il ne leur parle de ce qui le concerne lui-même dans les grandes choses qui viennent de s'accomplir. C'était en effet faire usage d'une victoire, comme fit Abraham de celle qu'il remporta sur les rois confédérés, et savoir faire ainsi est chose plus difficile, dit-on, que de vaincre. C'était savoir être dans l'abondance, savoir être rassasié. Mais Jésus savait aussi être abaissé. Voyez-le devant les habitants de Samarie au chapitre 9 de Luc. Dès le début de cette scène, dans la conscience de sa gloire personnelle, il anticipe le moment de sa résurrection et, comme un homme qui veut faire connaître qu'un personnage de distinction s'avance, il envoie des messagers devant sa face. Mais l'incrédulité des Samaritains change l'aspect des choses. Ils ne veulent pas le recevoir. Ils refusent d'ouvrir un chemin devant les pas du Seigneur de gloire et l'obligent à se chercher lui-même le meilleur chemin qu'il put trouver comme l'homme rejeté. Et il accepte aussitôt cette place, sans qu'il s'élève un murmure dans son cœur. Il redevient le Nazaréen, Matthieu chapitre 2, en se voyant repoussé comme le Bethléemite, et il porte ce nouveau caractère en s'éloignant du village samaritain aussi parfaitement qu'il avait porté le premier avant d'y arriver. Ainsi, Jésus savait comment être abaissé. Nous le retrouvons dans des circonstances analogues au chapitre 21 du même évangile. Jésus entre dans Jérusalem comme le fils de David. Tout ce qui pouvait le mettre en évidence en cette glorieuse qualité l'environne et l'accompagne. Il apparaît alors dans sa gloire terrestre comme il avait été dans sa gloire céleste sur la sainte montagne. Cette gloire lui appartenait de droit, et quand l'occasion le demande, il sait la porter. Mais l'incrédulité de Jérusalem, comme précédemment celle de Samarie, transforme encore la scène, et celui qui avait fait son entrée dans la ville comme son roi est forcé d'en sortir pour se chercher un gîte pour la nuit. Et là, Jésus se trouve hors de Jérusalem, comme il s'était trouvé hors de Samarie, sachant être abaissé. Quelle perfection! Si les ténèbres ne comprennent pas la lumière de la gloire personnelle ou officielle de Christ, sa gloire morale brille avec d'autant plus d'éclat, car il n'y a rien de plus beau, comme principe moral ou comme caractère, que cet abaissement volontaire au milieu des hommes, avec cette conscience de gloire intrinsèque devant Dieu. Nous en avons des exemples remarquables dans les vies de quelques saints. Abraham fut volontairement un étranger parmi les Cananéens tous les jours de sa vie, ne possédant pas un pouce de terre, ni ne cherchant à le posséder. Mais il savait à l'occasion se placer au-dessus même des rois, dans la conscience de sa dignité devant Dieu, selon le conseil de Dieu lui-même. Jacob parle de son pèlerinage, de ses jours qui ont été courts et mauvais, s'anéantissant lui-même devant l'opinion du monde. Mais au même moment, il donne sa bénédiction à l'homme qui alors était le plus grand de la terre, sachant que devant Dieu, c'est lui qui est le plus excellent des deux. David demande un pain et le demande sans honte. Il accepte en même temps l'hommage dû à un roi et reçoit le tribut de ses sujets dans la personne d'Abigaïl. Paul est lié de chaînes. Il est prisonnier dans le palais du gouverneur et parle de ses liens. Toutefois, au même moment, il fait entendre à toute la cour et à tous les hauts personnages du monde romain, assemblés autour de lui, que, entre eux tous, il se sait l'homme béni, le seul homme heureux. C'est cette réunion d'abaissement volontaire devant les hommes et de conscience de gloire devant Dieu qui atteint chez notre Seigneur sa manifestation la plus élevée, la plus éclatante, que dis-je, sa manifestation parfaite. Et dans cette capacité de savoir être dans l'abondance, et de savoir être abaissé, de savoir être rassasié, et de savoir être dans les privations, il y a une beauté de plus, car elle nous dit que le cœur de celui qui a appris cette leçon s'occupe plutôt du but du voyage que du voyage lui-même. Si notre cœur s'attache au voyage, nous n'aimerons pas ses traverses et ses difficultés, ses lieux rudes et ses lieux escarpés. Mais si nous regardons au but, ces choses nous préoccuperont peu. C'est ici, bien certainement, une leçon secrète pour plusieurs d'entre nous. Mais il y a dans le caractère du Seigneur d'autres détails qui doivent attirer notre attention. Nul d'entre les hommes n'avait plus de grâce, n'était plus accessible, a dit de lui quelqu'un. On remarque dans sa manière d'être une douceur et une bonté que l'on ne rencontre jamais dans les hommes, et pourtant on sent toujours qu'il était un étranger sur la terre. Il était un étranger ici-bas, un étranger en tant que l'homme révolté remplissait la scène, mais se trouvant très près aussitôt que la souffrance ou le besoin le réclamait. L'éloignement dans lequel il se tenait et l'intimité dans laquelle il se montrait étaient tous deux parfaits. Il faisait plus que considérer la misère qui l'entourait. Il y prenait part avec une sympathie qui avait tout entière sa source en lui-même, et il faisait plus que repousser la corruption qui l'environnait. Il maintenait la séparation de la sainteté elle-même d'avec tout contact avec le mal ou toute souillure. Voyez-le manifestant cette combinaison de distance et de proximité au chapitre 6 de Marc. C'est une scène touchante. Les disciples sont de retour auprès de lui après une longue journée de service. Il s'intéresse à eux, il sympathise à leur fatigue, il s'en occupe et il pourvoit aussitôt en leur disant
« Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert et reposez-vous un peu. »
Mais les foules l'ayant suivi, il se tourne vers elles avec le même amour. Il prend connaissance de leur état, et après s'être occupé d'elles comme de brebis qui n'ont pas de pasteur, il se met à les enseigner. Dans tout ceci, nous voyons Jésus aller au-devant des divers besoins qui se présentent autour de lui, qu'il s'agisse de la fatigue des disciples ou de la faim et de l'ignorance de la multitude, il est là pour y pourvoir. Mais les disciples, mécontents des soins de Jésus pour les foules, l'engagent à renvoyer celles-ci. Le cœur du Seigneur, cependant, est plein d'autres pensées, et à l'instant même il se forme entre ses disciples et lui une distance qui se fait sentir, peu de moments après, par l'ordre qu'il leur donne d'entrer dans la nacelle et d'aller devant lui à l'autre rive, pendant qu'il renverra les foules. Cette séparation ne fait que susciter un nouveau trouble aux disciples. Les vents et les flots leur sont opposés sur le lac, mais dans leur détresse, Jésus se trouve de nouveau auprès d'eux pour les secourir et les rassurer. Quelle harmonie dans la combinaison de la sainteté et de la grâce! Jésus est près de nous quand nous sommes là, quand nous avons faim, quand nous sommes en danger. Mais il est éloigné de nos penchants naturels et de notre égoïsme. Sa sainteté fit de lui un étranger dans un monde souillé. Sa grâce le maintint toujours actif dans un monde souffrant et misérable. La vie du Sauveur est ainsi mise en évidence sous un aspect remarquable de gloire morale, puisque, étant obligé de se tenir à l'écart, par le caractère de la sphère dans laquelle il se mouvait, la misère et l'affliction qui y régnaient le poussaient incessamment à agir. Et cette activité s'exerçait envers toutes sortes de personnes et avait ainsi à revêtir toutes sortes de formes. Christ avait affaire à des adversaires, au peuple, à une troupe de disciples, les douze, à des hommes individuellement, et tous le maintenaient dans une activité non seulement continuelle, mais extrêmement variée. Et il fallait qu'il sût, et assurément il le savait parfaitement, comment il fallait répondre à chacun. À côté de tout cela, nous le voyons, en certaines occasions, assis à la table des autres, mais c'est seulement pour nous faire connaître de nouveaux traits de sa perfection. À la table des pharisiens, où il se trouve parfois, il n'adopte ni ne sanctionne la scène de famille. Mais invité sous le caractère qu'il avait déjà acquis et soutenu en public, il est là pour agir selon ce caractère. Il n'est pas simplement un convive qui jouit de la courtoisie et de l'hospitalité du maître de la maison, mais il est venu dans son propre caractère, et par conséquent il peut enseigner ou blâmer. Il est toujours la lumière et agit comme la lumière, et il met ainsi en évidence les ténèbres dans l'intérieur de la maison, comme il avait fait au dehors.
Luc chapitre 7 et chapitre 11.
Cependant, si Jésus entrait souvent dans la maison du pharisien comme docteur, et si, agissant comme tel, il réprouvait l'état de choses qu'il trouvait là, c'était comme sauveur qu'il entrait dans la maison du publicain. Lévi lui fit une fête dans sa maison, et fit asseoir avec lui des publicains et des pécheurs. Les chefs religieux trouvent naturellement à redire à cela. Alors Jésus se révèle comme sauveur, leur disant,
« Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que c'est que « Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, versets 12 et 13.
Paroles simples, mais frappantes et pleines de signification. Simon le pharisien désapprouvait qu'une pécheresse entrât dans sa maison et s'approchât de Jésus. Le publicain Lévi réunit les pareils de cette femme pour être les convives du Seigneur Jésus. Et en conséquence, celui-ci agit chez l'un comme un censeur, tandis que chez l'autre il se montre dans les richesses de grâce d'un sauveur. Mais Jésus s'assit à d'autres tables encore, suivons-le à Jéricho et à Emmaüs.
Voyez Luc chapitre 19 et chapitre 24.
Ce furent les désirs du cœur qui l'accueillirent à chacune de ces occasions, désirs éveillés toutefois sous des influences différentes. Zachée n'avait été jusqu'alors qu'un pécheur, un homme naturel, corrompu, comme nous le savons, dans ses mobiles et son activité. Mais il avait été sous l'action du Père à ce moment précisément, et Jésus devenait l'objet de son âme. Il souhaitait de le voir, et parce que son désir était ardent, il s'était frayé un chemin à travers la foule et était monté sur un sycomore pour tâcher d'apercevoir Jésus au moment où il passait. Le Seigneur le vit et aussitôt s'invita lui-même chez lui. Chose remarquable, Jésus est un convive non invité qui s'est invité lui-même dans la maison du publicain de Jéricho. Les premiers mouvements de la vie chez un pauvre pécheur, les désirs éveillés par le Père, étaient là dans cette maison pour accueillir Jésus. Mais le Seigneur, d'une manière aussi bienveillante que significative, va au-devant de l'invitation et il entre. Il entre dans le caractère qui convient et répond aux besoins du moment pour arriver et affermir la vie nouvellement reçue, jusqu'à ce qu'elle se manifeste sous une des formes de sa puissance et produise un de ses bons fruits.
Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Luc 19, verset 8.
À Emmaüs, nous voyons autre chose, non pas le désir d'une âme nouvellement attirée, mais le désir de saints relevés de leur chute. Les deux disciples avaient été incrédules. Ils retournaient chez eux sous l'impression pénible que Jésus avait trompé leur attente. Le Seigneur les réprimande peu après les avoir rejoints sur la route, en s'exprimant toutefois de manière à faire brûler leur cœur au-dedans d'eux. Et quand ils arrivent ensemble à la porte de leur demeure, Jésus fit comme s'il allait plus loin. Il ne voulait pas s'inviter lui-même, comme il l'avait fait à Jéricho, ses disciples n'étant pas dans la condition morale où était Zachée. Cependant, quand ils l'invitent à entrer, il entre, mais seulement pour fortifier le désir qui les avait poussés à l'inviter et pour répondre pleinement à ce désir. Et les disciples, pressés par la joie, retournent cette nuit même à Jérusalem, malgré leur avancée, pour faire part de tout à leurs frères. Quelle variété de beauté dans toutes ces scènes! L'hôte du pharisien, celui du publicain, celui des disciples, le convive invité et non invité, est assis dans la personne de Jésus, toujours à sa place dans toute la beauté de la perfection. Je pourrais le montrer assis à d'autres tables, mais je ne parlerai plus que d'une seule. À Béthanie, nous voyons Jésus s'associant à une scène de famille. S'il avait désapprouvé l'idée d'une famille chrétienne, il n'aurait pas pu se trouver à Béthanie, comme l'Écriture nous l'y montre, et pourtant nous ne le voyons là que pour découvrir en lui un nouveau trait de beauté morale. Jésus est à Béthanie comme un ami de la famille, trouvant dans le cercle qui l'entoure ce que nous trouvons encore aujourd'hui parmi nous. Un chez-soi. Les mots
« Or Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare »
nous le disent assez. L'affection de Jésus pour la famille de Béthanie n'était pas celle d'un sauveur ni d'un berger, bien que nous sachions qu'il était pour elle l'un et l'autre. C'était l'affection d'un ami de la famille. Mais tout en étant un ami et un intime ami, qui pouvait, quand il lui plaisait, trouver sous ce toit hospitalier un cordial accueil, jamais cependant il n'y intervint dans les arrangements domestiques. Marthe était la ménagère, la personne la plus occupée de la famille, utile et importante à sa place, et Jésus la laisse là où il la trouve. Ce n'était pas à lui de changer ou de régler ces choses. Lazare peut prendre place à côté de ses hôtes à la table de famille. Marie peut être absorbée et retirée dans son royaume à elle, ou dans le royaume de Dieu au-dedans d'elle, et Marthe sera affairée et servira. C'est très bien. Jésus laisse tout cela tel qu'il le trouve. Celui qui ne voulait pas entrer dans la maison d'un autre sans y être invité, s'il entrait dans la maison de ses deux sœurs et de leurs frères, ne voulait pas intervenir dans l'ordre et les arrangements qui y régnaient, et ceci est d'une parfaite convenance morale. Mais lorsqu'un des membres de la famille, au lieu de garder sa place dans le cercle, en sort pour enseigner dans la présence de Jésus, Jésus doit revendiquer et revendique ses droits supérieurs, et il rétablit les choses divinement, bien qu'il ne voulût pas s'en mêler ni y toucher domestiquement. Luc chapitre 10. Qui peut suivre toutes les traces de Jésus? Le vautour dira qu'elle dépasse la portée de son regard. Et si aucun œil humain ne peut sonder l'ensemble de ce seul objet, quel est le caractère humain qui, par ses ombres et ses imperfections, ne sert pas à en faire mieux ressortir l'éclat? Aucun de nous ne se représente, Jean ou Pierre, ou un des autres apôtres, comme ayant un cœur dur ou comme manquant de bonté. Tout au contraire, nous sentons que nous aurions pu leur confier nos peines et nos besoins. Cependant, le court récit du chapitre 6 de Marc, dont j'ai parlé, nous fait voir qu'ils sont tous en défaut, qu'ils sont tous à distance, quand les foules affamées s'adressent à eux, menaçant de les déranger. Tandis que, au contraire, pour Jésus, c'était alors précisément le moment et l'occasion de s'approcher. Tout ceci nous dit ce que Jésus est, mes bien-aimés. Je ne connais personne de bon, d'affable comme lui, a dit quelqu'un. Personne qui soit descendu comme lui jusqu'à de pauvres pécheurs. J'ai plus de confiance en son amour que dans celui de Marie, ou de quelque saint que ce soit. Ce n'est pas seulement sa puissance comme Dieu. C'est la tendresse de son cœur comme homme qui m'attire. Jamais personne ne montra autant de tendresse, ou n'en posséda autant. Personne ne m'a inspiré autant de confiance. Que d'autres s'adressent aux saints ou aux anges s'ils le veulent, moi j'ai plus de foi en la bonté de Jésus.
Fin de citation.
Le chapitre 6 de Marc confirme ces paroles en nous montrant l'étroitesse de cœur des meilleurs d'entre nous, tels que Pierre et que Jean, en même temps qu'ils manifestent la grâce si pleine, si infatigable, si humble de Jésus. Dans ses relations avec le monde, Jésus était à la fois un vainqueur, un homme de douleur et un bienfaiteur. Quelle gloire morale dans un pareil assemblage! Il fut le vainqueur du monde, repoussant toutes ses séductions et toutes ses offres. Il souffrit de la part du monde, rendant témoignage pour Dieu contre le train et l'esprit du monde, et il fit du bien au monde, dispensant continuellement son amour et sa puissance, rendant le bien pour le mal. Les tentations du monde ne servirent qu'à faire de lui un vainqueur. La corruption et la haine du monde ne purent que faire de lui un homme de douleur, ses misères un bienfaiteur. Que de gloire morale se trouvent ici réunies. Le Seigneur Jésus fut la personnification vivante de cette parole « dans le monde, mais non pas du monde », qui se lie sans doute à cette autre parole «
Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal ».
Jean 17, verset 15. Il fut la manifestation vivante de cet état pendant toute sa vie, car il était toujours dans le monde, travaillant au milieu de son ignorance et de sa misère. Mais jamais il ne fut du monde, jamais il ne prit part à ses espérances ou à ses projets, ni ne respira l'esprit du monde. C'est au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Il me semble que Jésus se présente à nous tout particulièrement sous ce caractère. C'était l'époque de la fête des tabernacles, le temps du couronnement de la joie en Israël, l'anticipation du royaume à venir, la saison de la rentrée des récoltes, quand le peuple n'avait plus qu'à se souvenir qu'il avait été autrefois errant dans le désert et avait demeuré sous des tentes. Les frères de Jésus lui proposent de profiter d'une occasion comme celle-là, alors que le monde entier, comme on dit, se trouvait à Jérusalem. Ils auraient voulu qu'il se mît en avant, qu'il se posât, comme on dit encore, en homme du monde. « Si tu fais ces choses, lui disent-ils, montre-toi au monde toi-même. » Jésus refuse. Le moment pour lui de célébrer la fête des tabernacles n'était pas encore venu. Il aura plus tard son royaume dans le monde. Il sera grand, et sa domination s'étendra jusqu'au bout de la terre quand son jour viendra. Mais pour le présent, il marche vers l'autel et non pas vers le trône. Il ne veut pas aller à la fête pour être de la fête, bien qu'il doive s'y trouver. Aussi, lorsqu'il est arrivé dans la ville, l'y voyons-nous occupé du service et non dans les honneurs. Non pas opérant des miracles comme ses frères eussent voulu qu'il fît, afin d'attirer l'attention des hommes, mais enseignant les autres, s'effaçant ensuite lui-même derrière cette parole.
« Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. »
Tout cela fait partie de la gloire morale de l'homme Jésus, de l'homme parfait dans sa relation avec le monde, un vainqueur, un homme de douleur et un bienfaiteur dans le monde, mais non pas du monde. Ailleurs, avec une égale perfection, nous le voyons distinguer entre les choses aussi bien que manifester ses belles combinaisons. Ainsi, en s'occupant de l'affliction de ceux de dehors, il montre de la tendresse accompagnée de la puissance qui guérit. Tandis que, lorsqu'il s'agit de disciples, nous voyons en lui la fidélité en même temps que l'amour. Le lépreux du chapitre 8 de Matthieu était un étranger. Il vient à Jésus avec le mal dont il souffre et en obtient aussitôt la guérison. Le même chapitre nous montre des disciples s'adressant aussi à Jésus dans leurs angoisses pendant l'orage, mais ils sont repris aussi bien que rassurés. Jésus leur dit,
« Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ?»
Et pourtant le lépreux n'avait que peu de foi, tout comme les disciples. Si ceux-ci disaient,
« Seigneur, sauve-nous, nous périssons !»
L'autre avait dit,
« Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. »
Mais les disciples sont repris, et le lépreux ne l'est pas, précisément parce que le cas était différent dans la pensée du Seigneur, et l'était justement. Dans l'un des cas, il s'agissait simplement de l'affliction. Dans l'autre, il s'agissait de l'âme aussi bien que de l'épreuve. Par conséquent, en répondant au lépreux, le Seigneur ne lui montre que de l'amour. Tandis qu'envers les disciples, il avait à être fidèle aussi bien que tendre. La différence de relation avec lui explique la différence dans l'intervention du Seigneur et nous montre avec quelle perfection Jésus distinguait entre des choses qui avaient une grande analogie entre elles, mais qui, cependant, n'étaient nullement les mêmes. Sous ce rapport, la perfection du Seigneur se manifeste davantage encore. Quoiqu'il censure lui-même, il ne permet pas que d'autres le fassent légèrement. Comme dans les âges précédents, Dieu pouvait humilier Moïse, mais il ne voulait pas que Marie et Aaron s'élevassent contre lui, Nombre chapitre 11 et 12. Israël, dans le désert, sera maintes et maintes fois châtié par la main de Dieu. Mais en face de Balaam ou de tout autre adversaire, Dieu sera celui qui n'a pas aperçu d'iniquité dans son peuple et qui ne permettra pas qu'aucun enchantement prévale contre lui. C'est ainsi également que le Seigneur intervient de la manière la plus frappante et la plus admirable entre les deux disciples et leurs compagnons qui les accusent, Matthieu chapitre 20. Et quoiqu'il eût envoyé, comme en secret, une parole d'avertissement et d'admonition à Jean-Baptiste, paroles que la conscience de Jean pouvait seule comprendre, il se tourne vers la multitude pour ne parler de lui qu'avec des expressions d'approbation et de satisfaction. Nous trouvons d'autres exemples de cette grâce qui distingue entre les choses qui diffèrent. Même lorsqu'il s'occupe de ses disciples, il vient un moment, celui des adieux, où la fidélité ne peut être observée plus longtemps et où il ne reste à exercer que la tendresse toute seule, Jean chapitre 14 et 15. Le cœur revendique cette heure comme lui appartenant tout entière, et l'éducation de l'âme ne peut pas se poursuivre alors. Jésus révèle à ses disciples ses secrets nouveaux, il est vrai, des secrets appartenant à la relation la plus chère et la plus intime, savoir leur relation avec le Père. Mais il n'y a rien dans ses discours qui ressemble à un reproche. Il ne dit pas alors « Jean de petite foi » ou « Comment ne comprenez-vous point ?» Une seule parole, qui a peut-être quelque analogie avec celle-ci, leur faisait connaître seulement une blessure dont le cœur avait souffert, afin qu'ils sussent quel était l'amour qu'il avait pour eux. Tel était, dans la pensée parfaite et pour le cœur de Jésus, le caractère sacré de la douleur du moment de la séparation. Nous le réalisons pour nous-mêmes, dans notre chétive mesure, de sorte que nous sommes capables d'en apprécier et d'en admirer au moins la pleine expression en Jésus. « Il y a un temps d'embrasser, dit l'Ecclésiaste, et un temps de s'éloigner des embrassements. C'est une loi écrite dans le livre des statuts de l'amour, et Jésus l'observait. » Jésus ne se laissait pas entraîner à la douceur quand l'occasion exigeait de la fidélité, et pourtant il passa par bien des circonstances que la sensibilité humaine eût ressenti et que le sens moral de l'homme eût jugé bien de ressentir. Jésus ne voulait pas gagner ses disciples par les pauvres voies d'une nature aimable. Le miel, aussi bien que le levain, était exclu des sacrifices faits par feu. Il n'y avait pas de miel dans les offrandes de gâteaux. Lévitique 2, verset 11.
Aucune offrande de gâteau que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car du levain et du miel vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel.
Et Jésus, la vraie offrande de gâteau, n'en avait pas non plus. Ce n'étaient pas simplement des paroles aimables ou polies que les disciples entendaient de la bouche de leur maître. Il n'y avait pas chez lui cette courtoisie qui consulte les goûts d'autrui et cherche à les satisfaire. Jésus ne cherchait pas à être agréable, et pourtant il s'attachait les cœurs de la manière la plus étroite, et c'est là de la puissance. C'est toujours une preuve de puissance morale quand la confiance est gagnée sans qu'elle soit recherchée, car alors le cœur a compris la réalité de l'amour. « Nous savons tous, a dit quelqu'un, distinguer l'affection de ce qui n'est que de la prévenance, et il peut y avoir une grande mesure de celle-ci sans qu'il y ait rien de celle-là. On dira peut-être que des manières aimables doivent gagner la confiance, mais nous savons bien que l'affection seule en est capable. L'amabilité, si elle n'est que cela, est du miel. Et combien de cet ingrédient ne se trouve-t-il pas en nous ? Nous sommes enclins à penser que tout va bien, et nous ne visons pas plus haut peut-être qu'à ôter le levain et à pénétrer de miel la pâte. Si nous sommes aimables, si nous remplissons convenablement notre rôle sur la scène bien ordonnée, polie et courtoise de la société, cherchant à plaire aux autres et faisant de notre mieux pour qu'ils soient satisfaits d'eux-mêmes, nous sommes contents et les autres le sont de nous. Mais est-ce là servir Dieu? Est-ce là une offrande de gâteau? Pensons-nous que cela fasse partie de la gloire morale de l'homme parfait? Certainement non. Nous pourrions estimer peut-être que rien ne conviendrait mieux et n'atteindrait mieux et plus effectivement le but. Néanmoins, c'est l'un des secrets du sanctuaire que l'on ne faisait pas usage de miel pour donner une odeur agréable à l'offrande. Ainsi, en développement, en à-propos, en combinaison et en distinction, tout était beauté et perfection dans toutes les voies de ce Fils de l'homme. La vie de Jésus était la brillante lumière d'une lampe. Il était, dans la maison de Dieu, cette lampe qui n'avait pas besoin de mouchette et de vase à cendre, Exode chapitre 25. Elle était continuellement arrangée devant le Seigneur, donnant la lumière d'une huile vierge et pure, et elle manifestait tout ce qui était autour d'elle, censurant et reprenant, mais gardant toujours sa propre place, sans reproche. Accusée par des disciples ou par des adversaires, comme il lui arrivait constamment, jamais le Seigneur ne cherche à s'excuser. En une occasion, ses disciples se plaignent, disant
« Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?»
Marc chapitre 4, verset 38. Mais Jésus ne songe pas à justifier le sommeil dont ses paroles viennent de le tirer. Une autre fois, ils objectent encore.
Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, qui est-ce qui m'a touché?
Luc 8, versets 42 à 48. Mais il n'a pas besoin de cette remarque, et agit de manière à y répondre.
Luc 8, versets 43 à 48. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui, ayant dépensé tout son bien en médecin, n'avait pu être guéri par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et à l'instant sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui, « Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. » Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant et, se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit, « Et bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. »
Une autre fois encore, Marthe lui dit,
« Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Jean 11, verset 21. Jésus ne s'excuse pas de ne pas avoir été là, ni de s'être arrêté pendant 2 jours au lieu où il se trouvait. Mais il apprend à Marthe quel caractère merveilleux son retard donnait à cette heure. Quelle glorieuse justification il y avait là de ce retard. Et il en était de même à chaque occasion semblable. Qu'il soit accusé ou blâmé, jamais Jésus ne rétracte une parole ou ne revient en arrière d'un seul pas. Il impose silence à toute voix qui s'élève en jugement contre lui. Sa mère lui fait des reproches, Luc 2, mais au lieu de pouvoir maintenir son accusation, elle doit être convaincue des ténèbres et de l'erreur de ses pensées. Pierre ose reprendre Jésus.
« Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. »
Matthieu 16, verset 22. Mais Pierre doit apprendre que c'était Satan lui-même qui l'excitait à parler ainsi. L'huissier, dans le palais du souverain sacrificateur, va plus loin encore. Voulant corriger Jésus, il le frappe sur la joue. Jean 18, verset 22.
Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant, « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ?»
Mais il est convaincu de violer les lois de la justice en présence même et dans le lieu de jugement. Tout cela nous dit les voies parfaites du Maître. Les apparences pouvaient être quelquefois contre Jésus. D'où vient qu'il dormait dans la nacelle quand la tempête et les vagues mugissaient, qu'il s'arrêtait en chemin quand la fille de Jaïrus était mourante? Pourquoi tardait-il à venir quand son ami Lazare était malade dans le village lointain de Béthanie? Mais tout cela n'est que l'apparence, et seulement pour un moment. Nous connaissons ces voies de Jésus, ce sommeil, cet arrêt, ce retard, tout est parfait. Les apparences étaient contre le Dieu de Job. Au jour des patriarches, Tant de messagers implacables et inexorables n'étaient-ils pas de trop? Mais le Dieu de Job n'avait pas à s'excuser, non plus que le Jésus de l'Évangile. C'est pourquoi, quand nous regardons au Seigneur Jésus comme à la lampe du sanctuaire, la lumière dans la maison de Dieu, nous trouvons que les mouchettes et les vases à cendres ne sont d'aucun usage. On reconnaît qu'il n'y a rien en lui qui leur corresponde. Aussi, tous ceux qui tentaient d'accuser ou de reprendre Jésus quand il était ici-bas, devaient eux-mêmes s'en retourner, repris et confondus. Ils avaient voulu se servir de mouchette pour une lampe qui n'en avait pas besoin, et ils n'avaient fait que trahir leur folie. La lumière de cette lampe brillait d'autant plus, non pas parce qu'on s'était servi de mouchette, mais parce qu'une preuve nouvelle était donnée chaque fois qu'elle n'en avait que faire. De tous ces exemples, nous recueillons l'utile leçon qu'il vaut mieux nous tenir tranquilles et laisser faire Jésus. Nous pouvons regarder et adorer, mais sans intervenir et sans interrompre, comme tous faisaient alors, ennemis, parents ou même disciples. Il ne pouvait rendre plus éclatante cette lumière qui luisait. Il n'avait qu'à s'en réjouir et à marcher à sa lueur, sans essayer d'y toucher. Que notre œil soit simple, et nous pouvons être assurés que la lampe du Seigneur, placée sur le chandelier, remplira de lumière tout le corps. Mais poursuivons. De même que Jésus ne cherchait pas à s'excuser devant le jugement de l'homme pendant le cours de son ministère, ainsi aussi à l'heure de la souffrance, quand les puissances des ténèbres sont toutes déchaînées contre lui, il ne cherche pas la pitié des hommes. Quand il fut devenu le prisonnier des Juifs et des gentils, il ne les supplie ni ne les implore. Il n'en appelle à la compassion de personne. On ne l'entend pas plaider pour sa vie. Il avait prié le Père dans le jardin de Gethsémané, mais il ne cherche à émouvoir ni le souverain sacrificateur, ni le gouverneur romain. Tout ce qu'il dit à l'homme à cette heure doit rendre manifeste le péché que l'homme, juif ou gentil, accomplissait dans ce moment même. Quel tableau! Qui aurait pu en concevoir le sujet? Il a dû être manifesté avant que d'être décrit, comme on l'a fait observer il y a longtemps déjà. Oui, l'homme parfait, une fois, a marché ici-bas dans la plénitude de la gloire morale, et le Saint-Esprit a projeté les rayons de cette gloire sur les pages des Évangiles. Et après la simple, heureuse et ferme assurance de son amour personnel envers nous, que le Seigneur l'augmente dans nos cœurs, rien ne contribue davantage à nous faire désirer d'être avec lui que de découvrir ce qu'il est lui-même. J'ai entendu parler d'un homme qui, après avoir suivi dans les quatre Évangiles la voie lumineuse de Jésus, fut ému jusqu'aux larmes et s'écria « Que ne suis-je avec lui ?» S'il est permis à un homme de parler pour les autres, chers amis, je dirais que c'est là ce dont nous avons besoin, et aussi ce après quoi nous soupirons. Nous connaissons ce qui nous manque, mais nous pouvons ajouter, le Seigneur sait ce que nous désirons.